je remercie beaucoup. Donc, M. Grévert, nous n'avons pas été présentés. Nous avons discuté, comme on fait, voilà. Donc, de son exposé et des nombreux exemples qu'il nous a donnés, et aussi de sa clarté pédagogique, parce qu'il a entrepris de comprendre ce que c'était qu'une clausule et qu'un cursus réunique. Je crois qu'en se bornant à la catégorie du cursus Velox, ce qui donnait largement matière à réfléchir, nous l'avons vu. Donc, enfin, je ne vais pas engager la discussion. Je vois que ça continue en fait très bien tout ce que nous avons fait ce matin. Et puis, je disais aussi, je le dis en passant, que je reconnaissais dans le cursus Velox la fameuse clausule cicéronienne, Péon quatrième tranchée, in esse vide antu, hein, avec temps fort sur in esse, antu, temps fort sur antu.
C'est
avoir les deux, c'est encore mieux. Oui, c'est, non, mais c'est, de ce côté-là, il y a un temps fort, trois temps faibles, un temps fort, un temps faible. De ce côté-là, les oppositions, ça se ressemble en étant différent.
Il est, c'est l'idéal, mais non, il en faut quatre pour les Velox.
Oui, mais attends. Bon, on verra tout à l'heure. Alors, je donne la parole maintenant à donc, monsieur. Madame Bourguin, qui va nous parler de rythme à propos du Moyen-Âge, nous vous écoutons.
Eh bien, je peux sauter une bonne partie de mes précautions oratoires, puisque ce sont des choses dont nous avons déjà parlé ce matin. Et rappeler simplement, pour commencer, que. Si pour les médiévaux, le rythme est nombre, d'après le mot grec, il l'applique le plus naturellement au nombre de Louis, c'est ce que nous avons dit aussi. Et plus précisément, ce domaine est presque exclusivement celui de la voix, pas celui du son en général. Ce mot latin, vox, a d'ailleurs ses deux sens, ce qui complique souvent notre compréhension des textes. Et donc, on a les passages bibliques de la vox tubarum, hein, et cette voix des trompettes est peut-être moins métaphorique qu'il n'y paraît. En tout cas, comme Jacques-Paul l'a montré, les premières réflexions sur lui, jusqu'au XIIIe siècle, se réfèrent uniquement à la parole humaine, qu'elle soit émission ou réception. Le son en lui-même, de durée indéterminée, cri ou stridence, les intéresse peu. Donc, cette parole en tant que son, elle a trois caractéristiques, la durée, la hauteur, l'intensité, la durée qui distingue les sons avec valeur discriminante dans le système phonique grec et latin classique, sur laquelle repose le système poétique, la hauteur et l'intensité qui déterminent ce qui est appelé le ton, soit l'accent, et la durée, la hauteur, l'intensité, vous le savez bien, ce sont aussi des outils de base de la musique. Mais si l'on dit que le rythme est nombre, qu'est-ce que l'on compte? Les musiciens s'attachent à la hauteur, d'où le système antique et médiéval des écarts entre tonalités, que les néophytes trouvent parfois si compliqués. Les poètes latins s'attachent à la durée, rêve long, un certain nombre de pieds d'envers. Saint Augustin, nous en avons aussi parlé, il parle de rythme, son traité, des musica, c'est en fait un traité de poésie, de prosodie. Il a compris la musique comme rythme incarné dans les mots. Puis, alors, je ne vais pas me lancer dans les notions d'Arsus et de Thésis, mais ce qui compte, c'est qu'on arrive dans tout cela à l'idée de mesure, à partir des définitions de Saint Augustin. Et de ceux qui l'ont suivi. Donc on va battre la mesure avec la main ou le pied. Il y a un rythme. L'essentiel, donc, c'est que j'ai dû proposer le nombre de mesures, qui prouve qu'il y a donc nombre, donc rythme. La voix a un rythme. Si on le laisse indécis et variable à libitum, on reste en rythme. Si on surveille, qu'on le fait rentrer dans un cadre, on se dirige vers la poésie. La régularité, ou le fait de se donner des règles contraignantes, distingue les deux domaines. Mais entre les deux règne la prose d'art, la prose soignée, la prose artistique qui me retiendra. Donc, on a, dans la langue médiévale, un brouillage des notions de longueur et d'intensité. La hauteur a disparu, sinon dans les définitions de certains grammairiens hérités de l'Antiquité qui recouvrent sans doute autre chose. La langue existe, elle, avec son rythme, qui est d'abord une affaire de souffle, puisqu'elle est sous-tendue ou limitée par les capacités de la cage thoracique, d'une part, mais aussi les nécessités de la communication. Elle doit coller à la pensée qu'elle exprime. Elle est donc articulée comme la pensée. Et comme la musique, elle repose sur le temps de la prononciation, de la lecture, le temps de l'audition, le temps de la compréhension, qui suppose un ordre des mots, un déroulement dans le temps de la phrase. Donc attachée par ses origines aux capacités et limites du souffle humain, la pensée a besoin de s'articuler en phrases, les phrases ont besoin de se structurer en segments, ce qui suppose des pauses. Et ces pauses sont nécessaires à la compréhension et à la pénétration des paroles dans l'esprit qui les enregistre. Le rythme de la phrase, c'est ce qui permet de respirer à l'esprit qui analyse et enregistre comme au souffle. Alors, je reprécise ce que Benoît Grévin vient de dire. Personnellement, jusqu'au XIIIe siècle, c'était le moment de l'intellectualisation par rédaction des textes, je ne pose pas de différence encore. Je ne pose pas de différence profonde entre l'oral et l'écrit. Les textes sont écrits pour être entendus, silencieusement au besoin, dans la tête du lecteur, mais leur dimension auditive est toujours effective. Même les lettres sont conçues comme paroles, seuls les textes les plus techniques y échappent. Le déchiffrement des textes écrits suppose une mise en forme dans l'esprit du lecteur qui ne va pas sans un embryon au moins de prononciation, comme le montrent les signes de ponctuation, d'origine auditive, qui permettent la perception de la structure des phrases, sous forme d'indications de modulation finale correspondant à la place et à la fonction de chaque segment. Il s'agit donc d'une lecture orale, même intérieure ou silencieuse. Il s'agit d'un processus plus actif et en tout cas plus physique que notre propre lecture rapide, mais essentiellement mentale. Composer ou perçu, un texte est quelque chose de vivant et de sensible au sens de perceptible au sens. Et je mets au sens au pluriel, parce qu'on nous parle énormément de peindre le texte, très souvent de peindre le texte sous des couleurs. Le texte est aussi quelque chose qui forme une image mentale et que l'on voit. Alors passons aux choses sérieuses. Comme le rythme est nombre, il est perçu dès qu'il y a réitération d'une mesure, donc répétition, puisque une note ou un son indéfiniment tenu n'a pas de rythme. La forme de base, c'est donc la répétition de structure. Le degré zéro du rythme étant la détermination d'unités syntaxiques qui se combinent, engendrant entre elles des pauses qui les séparent et qui sont nécessaires tant à la diction du locuteur qu'à la compréhension par l'auditeur. Ainsi, Cicéron va compter le nombre de collades ont fait une période, pas moins de deux, pas plus de, etc., de préférence 3 ou 4. La compréhension, donc la communication, passe par une bonne perception de la structure de la phrase. Alors, je vais citer Guido Faba. On considère comme mauvaise, dit-il, une rédaction qui ne peut pas être comprise à la première ou à la seconde prononciation. Alors qu'on la dit bien également et en marquant les pauses. Si vous lisez quelque chose en marquant les pauses bien clairement et que les auditeurs ne comprennent pas, votre phrase est mauvaise. Donc le même mot, distinction, renvoie au segment de phrase et aux pauses qui les terminent, et dans un deuxième temps seulement, au signe de ponctuation qui en indique la valeur, par inflexion vocale à donner à la terminaison du segment. Distinguer, c'est donc assurer la perception des différents éléments de la phrase et de leurs rapports qui sont donnés par les pauses de la voix qui les délimitent. Donc le rythme est perçu comme une répétition qui peut porter sur des éléments divers, des mots, des sons, surtout des structures. Répétition de mots, et apparaissent les figures d'anaphore. Répétition de sons, voilà les figures d'allitération, de paronomase et de rime. répétition de structures les plus fécondes que l'on peut désigner comme parallélisme. Les segments de discours sont d'autant mieux perçus comme créateurs de rythmes qu'ils sont analogues au plan de la syntaxe. Je m'arrêterai donc sur un certain nombre de procédés qui tous relèvent de la mise en valeur de la structuration d'un discours fait d'éléments distincts. La rime et le cursus, dont on vient de parler, marquent la fin des éléments constitutifs de la phrase. Ce sont donc des microstructures finales qui servent de marqueur du rythme général de la phrase. Je remarquerai seulement qu'il y a très souvent l'un prend le pas sur l'autre. Si l'on fait plus attention à la rime, on ne mettra pas partout le cursus et vice versa. Pas entrer dans le détail. Donc la parisopolie, que nous avons rencontrée également dans la communication de Jean Meyers, hein, presque égalité, mais pas tout à fait, sans s'en souvenir, ou c'était pour qu'on tombe sur des verres. Donc la parisopolie accentue leur effet, et la mise en parallèle de structures syntaxiques semblables crée un rythme encore plus prégnant. Dès qu'une structure s'impose, elle se fait rythme en se répétant elle-même. Alors, envisageons d'abord certaines suites de segments brefs, pour vos idées communs, style comatique. Brefs et parallèles qui forment des séries accumulatives, généralement destinées à décrire un objet unique ou à valoriser un fait unique, très peu dans les récits de narration. Elles se présentent en cas de surcharge émotionnelle, indignation ou attendrissement. Donc, à peu près au hasard, je commence avec des exemples anciens pour montrer que ça va pas loin. Julien de Tolède. Quis enim non in illa crudele vallubricum, ubi conjuratorum conciliabulum, perfidie signum, obscenitas operum, fros negociorum, venale judicium, et quod peius esti camibus contra ipsum salvatorem nostrum et dominum judeum baf las frimantium postibulum abebatur. Ou encore, je prends chez Grégoire Dutour un autre exemple d'indignation. De populari sagros strata de pascis vireas dissecas libeta succidis omnesque regionis fructus. Se branle une fois donné, je reprends le mot, n'a pas de raison de s'arrêter. Le rythme ainsi conçu n'a pas de logique évolutive interne. Je vous rappelle que Saint-Augustin définissait le rythme comme une mesure de longueur indéfinie. Il continue ma foi jusqu'à épuisement de l'invention verbale de l'auteur. Mais comment en sortir? Alors, il y a des procédés pour en sortir. C'est un rythme péremptoire auquel il est difficile de résister parce qu'il entraîne obstinément toujours dans la même direction. Et pour en sortir, l'auteur a besoin d'un changement, d'une brisure, d'un raccourcissement ou allongement du rythme, d'une perte de rime qui prévient l'auditeur qu'on arrive à la conclusion et qu'on va devoir sauter du train. Ainsi, l'envoi final de la prosa des Virginitatis d'Aldem au 8e siècle est Aldem a été énormément lu jusqu'au Xe siècle. Alors c'est de la prose, hein. Je n'ai pas écrit la prose, mais c'est de la prose. Valete, il s'adresse aux religieux. O flores ecclesiae, sorores monastiche, alumne scolastiche, Christi Margarete, paradisi gemme, et celestis patrie, participes. Amen. Il a brisé le rythme pour en sortir. Mais ces galopades, il faut bien le dire, qui sont le joyau du style comatique, ne sont pas le cas le plus fréquent. D'une façon générale, et comme les analyses des grammairiens et le système à trois niveaux de la ponctuation l'indiquent, le nombre utilisé dans la construction d'une phrase est généralement deux ou trois. Prenons une phrase bien équilibrée. Le début d'une phrase qui ne peut syntaxiquement rester indépendante, c'est ce qu'ils appellent le comma, traduction membre ou incise, suivi d'une ponctuation qui indique l'attente. Développement qui assure la continuité de la pensée et répond donc à cette attente, développe, accomplit le sens, c'est le colonne, disent-ils. Mais il peut encore s'ajouter autre chose, Donc une circonstancielle, une consécutive, une autre indépendante. Ce sera la partie retombante de la phrase qui se conclut sur l'inflexion de voix qui indique que c'est fini. Periodos ou versus. Donc on a le plus souvent dans la belle prose du Moyen-Âge classique une phrase que j'appelle en vague, partie montante, partie étale, partie retombante, donc flux et reflux. Si l'on n'a pas besoin de la partie finale, ou si l'on veut insister sur un parallélisme ou une antithèse, la phrase se réduit très facilement à deux pans. Chacune de ces parties peut bien sûr être dédoublée ou démultipliée lorsque la phrase prend de l'ampleur, mais 2 et 3, ce sont de beaux chiffres. Les nombres les plus simples, les plus porteurs de sens, 2 est le chiffre de la symétrie, 3 est le nombre parfait de la trinité où se résorbe l'unité. 2 et 3 sont les nombres aux résonances symboliques et mathématiques les plus riches et pourraient suffire à presque toutes les combinaisons en se combinant. 2, 3, 2 fois 2, 2 fois 3, 3 fois 2 suffisent à définir la plupart des structures répétitives de la prose. Et le plus souvent donc, la phrase s'organise selon un rythme à 2 ou à 3 temps. Il est bien rare qu'un motif, sauf il y a des auteurs qui, par exemple, c'est dans des Quatuor Gradibus, qui recherchent la quaternité. Donc ils vont s'arranger pour qu'il y ait toujours 4 fragments. Mais sinon, il est bien rare qu'on ne retrouve pas 2 fois 2. Les multiplications simples suffisent à assurer l'équilibre recherché. Le rythme à 2 temps, j'en ai mis des exemples là, apparent parce que, vous savez, à 2 temps, il y a multiplié, comme dans le style accumulatif. Prenons du dans Saint-Quentin, exemple 3, c'est comme un re 5. Excellent quipe, a patribus, ut arient et feriliter cum regibus. Il s'agit de ces pauvres malheureux jeunes gens qui sont forcés de s'exiler. Dimituntur a suis in opes, ut mercentur extraneis dapes, privantur suorum fundis, ut docentur quiete alienis. Truduntur a suis, ut participen cum an indigenis. Peluntur extores, ut venerentur brillantes. Segregantur sua nazione, un gratulento exterum possessione. L'impuntur a patribus, forza non ultra videndia matribus. Je pense que vous en avez assez, ça continue. Non, non, il y en a 3 fois autant. Il y en a 3 fois autant. Chez Benzo d'Alba, qui est un violon, c'est un rythme qui plaît bien au violon aussi. C'est un spécialiste de l'indignation. Et là, c'est comme une gamme qu'on monte et qu'on descend. Qualis extitit Godefredus penes germanos, talem si exibuit erga romanus. Postquam otem perturbavit nostram Liguriam, agressus et subvertere regalem curiam. Et quia suis insidiis patrem nequibit extinguere, filium querit ad petram adidere. Ça continue aussi.
On le vilain.
Ça continue. Passons maintenant aux répétitions en série. Je vous donne juste quelques exemples. Je réfléchirai après. Les répétitions en série d'un style segmenté, donc le style comatique, qui insiste sur la brisure, la segmentation et le parallélisme. Prenons le modèle du genre Isidore de Séville, qui sera imité. Admire inlassablement. Queso te anima, obsecrote, deprecorte, implorote. Ne quid ultra levite ragas, ne quid inconsulte geras, ne temere aliquid facias. Ne repetatur malum, ne renascatur peccatum, ne redeat iniquitas, ne recurat malitia, ne denu exoriatur nequitia, ne resonat injustitia vires. Et là aussi, il a dû briser pour sortir de sa série. Donc, identité entre la structure rythmique et l'architecture de la phrase. C'est une phrase en vague. Première partie, multipliée par 4, la principale. Deuxième partie, multipliée par 3, la complétude. Enfin, multiplié par 6, s'étirant vers le style accumulatif défini précédemment, la finale. Les éléments grammaticaux sont toujours à la même place dans chaque segment. Isidore n'a pas cherché la rime, elle n'est qu'une conséquence de ce parallélisme. À la fin de la phrase, la rime est rompue par le dernier mot qui prolonge le segment, par un complément qui n'existe pas dans les autres unités du discours et qui annonce que l'on sort du développement. Mais la rime ne peut aussi ne pas être équitée. Elle découle alors normalement, si l'on ne fait pas d'effort pour varier les déclinaisons, du parallélisme de structure. Alors prenons un autre grand modèle. Saint-Augustin. Deus. Quem nemo amitit, nisi deceptus. Quem nemo querit, nisi admonitus. Quem nemo invenit, nisi purgatus. C'est aussi un bel exemple de parisocomie. Le segment central n'a pas exactement le même placement des syllabes que les deux segments qui l'encadrent, mais c'est toujours foncé. Le parallélisme de structure, à quoi sert-il? Bien très souvent, c'est le bon moyen pour montrer l'analogie entre deux niveaux. Le ciel et la terre, le monde et l'au-delà, la chair et l'esprit, le passé et le présent, le type et l'antitype. Ut, dum decibulus dubitans, et magistro vulnera palpare carnis, in novis vulnera sanare infidelitatis. Donc il s'agit de Saint Thomas, le doute de Saint Thomas, et ce qui s'est passé une fois dans l'histoire permet notre rédemption des siècles après. Vous avez ce parallélisme, en partie typologique en tout cas, entre le moment clé de l'histoire du monde, c'est-à-dire le moment de l'incarnation, et puis tout ce qui en découle. Donc un mot en commun, pour que nul n'en ignore, cette blessure. Et un parallélisme qui inscrit le doute de Thomas dans sa perspective didactique et prophylactique. Sa leçon toujours actuelle, la démarche à longue perspective de la Providence. Le parallélisme peut aussi démontrer la justesse d'une métaphore, ainsi chez Hugues de Fouillois qui compare la chair et la mer qui ont en commun leur danger. Marimo tu fluctum, seriam sebullit. Caro, motu sensum ebulliens sevit. Mare perturbationibus suis arenas movet et sublevat. Caro, vexationibus suis animi evitatem pulsat. Là aussi, ça continue. Dans le premier élément, le chiasme des deux radicaux lie étroitement les deux étages, le concret et l'abstrait. Il y a presque trois mots en commun. Créer l'analogie de façon évidente, il reste les deux termes qui sont les terres, la mer et les flots, la chair et les sens. De branles données, la comparaison va se poursuivre sur trois autres paires parallèles. Le rythme binaire a ici toute son efficacité. Lors saisi par l'attraction de ce parallélisme de rythme et de structure, les auteurs les poussent parfois jusqu'à de véritables figures géométriques si l'on considère que le nombre sert à les construire et que leur schéma dessine un équilibre transcendant, figures de danse presque, danse des mots si l'on considère leur perfection sonore et rythmique et leur inscription dans le temps. Par exemple, voici chez Richard de Saint-Victor un carré. O excellentia moris. Ove mensia directionis. O caritatis violentia, o emulationis super eminentia. Outre la parisocolie qui dessine un élargissement de 9 à 13 syllabes, le jeu des désinences que l'on pourrait schématiser par ABABBABA opère un chassé-croisé, d'abord vocatif-génitif, puis génitif-vocatif. L'exclamation avec ces quatre éléments dessine un carré ou plutôt un aller-retour, comme si après avoir dessiné le premier parallélisme, on venait symétriquement sur ses pas pour revenir au dernier mot sur la sonorité finale du premier. Évidemment, il n'est pas anodin qu'il s'agisse d'exclamations. L'affectivité domine ces effusions géométriques. Le goût pour les formes closes, les chiasmes, volontiers oxymoriques, c'est-à-dire qui montrent une impossibilité, existe. Exemple, fides est in unitate sancte trinitatis, et trinitate sancte unitatis, à des mains de Chaval. Donc ces formes oxymoriques, d'origine augustinienne et grégorienne, le grand-père de l'Église, englobe la pensée en une formule totalitaire, parce qu'elle se referme sur elle-même, on ne peut pas en sortir. La tendance au rythme ternaire est la base de construction en triangle, qui n'ont plus qu'à refermer l'expression sur elle-même pour aboutir là aussi à une expression quasi géométrique. Un passage d'une des méditations de saint Anselme présente un triangle parfait et est idéalement refermé sur lui-même, montre la tendance aux tricolores antiques jointe à la fascination pour tout ce qui est trinitaire et qui pouvait assurément justifier ce type de figure. Mande favum verbum, fugge plusquam meditum saporem, gluti salubrem decorem, mande cogitando, sugge intelligendo, gluti amando et godendo. Etare mandendo, gratulare suggendo, giucundare glutiendo. Ces trois tercets sont un parfait exemple de circularité. Les deux premiers sont liés par l'anaphore, les deux derniers par la terminaison. Les mots se répètent puis se déplacent. L'impression de complétude vient moins de la rime que de la réitération des mêmes éléments, les radicaux, mais aussi l'impératif ou le gérondif, imbriqués dans un emboîtement comme inéluctable où le déplacement de l'un entraîne commutation avec l'autre. Les mots dansent sur des figures imposées, des chassés croisés qui les mettent en résonance les uns avec les autres. Ce ne sont que des exemples, bien d'autres figures pourraient être détaillées, qui reposent sur le rythme de la phrase dans la recherche d'une adéquation à l'effet souhaité. Qu'on me permette, pour conclure, une ouverture sur la signification de cette recherche. Les plus parfaits de ces rythmes géométriques se trouvent chez les auteurs spirituels. Hugues de Saint-Victor en est un des créateurs les plus inspirés. Lorsqu'il met en valeur par des antithèses raffinées la complémentarité profonde du haut et du bas, du ciel et de la terre. Chez lui, le rythme ternaire est également un reflet et comme un écho de la doctrine trinitaire. De la même façon, l'oxymore avait paru au père de l'Église la meilleure façon de souligner le caractère paradoxal de la religion chrétienne, donc mors vitalis. Vita mortalis, mort vitalis, mort vitale et vie mortelle. Et la figure est inlassablement reprise. Mais je ne vais pas continuer sur les oxymores. Imité dans la littérature d'apparat, lettres et dédicaces, et tout passage soigneux. Ces artefacts sortis de leur nus, celui qui les fait mieux comprendre, apparaissent souvent beaucoup plus creux et gratuits. Exemple de la formule du carré tautologique qu'on trouve très souvent. Honorabiliter venerandis et venerabiliter honorandis. Ça veut dire très vénérable, c'est tout. Carré, on croise les mots et les combinaisons. Et puis on en a d'autres, Cerati de Vérone, enfin il y en a des centaines. Mandacissimam veracitatem, vericissimam mandacitatem. Voilà, mais Augustin et Isaac sont à l'origine presque tout. Donc, cela domine le style d'apparat jusqu'à satiété, il faut bien dire. Il reste que la fascination pour ces modules d'expression, toujours fortement rythmée par la mise en place d'éléments parallèles ou antithétiques, nous montre l'attrait qu'ils opèrent sur les esprits. Je cite maintenant Roger Caillois à partir de Saint-Jean-Perse. La connivence des significations se trouve comme authentifié par l'écho des sonorités. Dans la pensée médiévale, comme une analogie à valeur démonstrative, une analogie qui fait rythme a de plus valeur persuasive. De la même façon que si des mots se ressemblent, les grammairiens et les exégètes cherchent et trouvent entre eux un rapport de sens, si des cadences se ressemblent, ce qu'elles proposent prend valeur d'évidence, ce qui fait toute la force de ces formes. Et quand apparaît ce type de structure? Eh bien, cela dépend des auteurs. Alors, un tout petit tour d'étape choisie. Chez Gallus Anonymus, au XIIe siècle, chez certains auteurs mystiques tardifs, où il s'agit d'imitation d'Isidore, le procédé est si constant qu'il perd tout sens et se fait maniérisme. Quand 40 pages de texte sont entièrement rimées, ça devient maniérisme. Certains auteurs, comme Émoine Fleury, alternent passages très rimés, très rythmés, et passages lisses, en soulignant parfois ostensiblement le changement de ton, mais de façon un peu artificielle, on dirait que c'est simplement pour varier. D'autres sont plus raisonnés. Grégoire de Tours, par exemple, fait très nettement la différence entre le récit des événements, très plat, rectotono, qui se veut objectif, si c'est une notion applicable à cet auteur. Et les moments...
Dis l'objectif pour les autres.
Et les moments d'attendrissement ou d'exhortation qui correspondent à ce qui le touche le plus profondément. Récit de miracles, récit de baptême, récit de cérémonie, surtout attente des miracles, et puis des scènes nocturnes, où apparaissent des phénomènes de parallélisme et de rythme. Bien beaucoup sont comme lui. Grégoire de Tours répond à un certain type d'émotion par une mise en perspective qui solennise les circonstances, mais laisse surtout entrevoir ce qu'il est mieux. Oui. Et beaucoup d'auteurs sont dans le même cas. Adhémar de Chavannes, qui se contente de quelques parallélismes dans les passages laudatifs de son ouvrage historique, se lance parfois dans de longues périodes rythmées, rimées, lorsqu'il s'émerveille devant la magnificence du plan divin, qui fait du passé, du présent et de l'avenir, une seule et même histoire de rédemption. Ou bien sûr, lorsqu'il parle de Saint Martial. Il démarre ainsi lorsqu'il s'enthousiasme et veut convaincre. Chez Ratier de Vérone, la rime apparaît surtout dans les moments les plus tendus d'introspection ou de satire, c'est-à-dire souvent chez lui, il faut bien dire.
Oui.
Chez Otto de Saint-Emrand, apparaît lorsqu'il s'apitoie sur lui-même. Prenons un technicien du commentaire littéraire comme Conrad Tirsan. Il se met à rimer un texte soigneusement structuré lorsqu'il arrive à sa troisième partie qui traite de la culture comme devoir religieux. Rien à voir dans les passages techniques de présentation de l'auteur. C'est donc une façon d'attirer l'attention sur un passage important. C'est l'équivalent écrit d'une intonation bien sentie, d'un doigt levé, d'une touche de solennité. La beauté de la forme convient au sujet important, ou bien à ceux qui déchirent, comme chez Ratier de Vérone. Des auteurs plus cérébraux, comme Abélard, recourent aux oppositions et aux antithèses lorsqu'ils sont indignés ou amers. Donc l'émotion investit la diction. D'une façon générale, et on l'a vu ce matin avec Jean-Pierre, la forme fait partie du sens. Si un auteur médiéval qui n'est pas spécialement ni continuellement maniéré se met à rythmer son texte, on peut en conclure que ce qu'il dit l'émerveille ou le touche et qu'il veut faire partager cette émotion ou du moins lui donner une expression qui lui rende justice. Mais d'où vient cette force émotive du rythme? Jean de Garland, dans sa Parisiana Poetria, l'a perçu à propos de la rime. Le style isidorien, dit-il, c'est-à-dire la prose rimée, est très propre à susciter l'émotion. Valde motivus est ad pietatem valedicere. En fait, donc je conclurai là-dessus, ce qui suscite l'émotion, c'est l'attente. Une structure étant donnée, on attend sa reproduction. Et l'esprit n'est assouvi que par son retour. C'est ce désir qui met en branle le moteur affectif. La perception d'un rythme commence avec la simple répétition. La répétition crée une attente, une tension dans l'expectative de savoir s'il se reproduira. Si le rythme attendu se reproduit, l'attente est assouvie, la tension se relâche sur l'énoncé accompli. Cette attente entre en jeu dès qu'une phrase est commencée. L'esprit attend la suite. À plus forte raison, lorsque la phrase se structure de telle façon que s'il y manque un élément, l'attention de l'auditeur en restera frustrée. Ainsi, prends un passage de Cassiodore au hasard. Antiquorum diligentissimus imitator, modernorum nobilissimus, si je ne vous dis pas institutor, mais pédagoga, vous allez souffrir. J'espère. On voit bien que dès le cinquième mot, on attend un répondant à la première partie de l'énoncé. On resterait frustré s'il ne venait pas, comme si en musique, un motif demeurait sans réponse et sans conclusion. L'auteur s'attache à créer une attente, car l'attente est désir. Le désir étant une émotion, le côté émotionnel de la perception est aussitôt mis en branle. Parce que le récepteur attend, il ne se contente plus d'enregistrer intellectuellement les données qui lui arrivent, il désire un accomplissement qui l'assouvira. C'est pourquoi les causes sont importantes, qui permettent de savourer, à un temps imperceptible, la réponse à un presque imperceptible désir.